Panorama Économie.
C'est parti pour un nouveau numéro de Panorama Économique ce samedi sur Radio Capi. Au sommaire, la RDC échappe à la menace de radiation du processus ITE qui pesait sur elle après que son statut de pays candidat a été suspendu temporairement pour 12 mois en avril 2013. Le pays a été déclaré conforme à l'ITE par les conseils d'administration de cette structure. Et puis la semaine, nous avons également parlé de 82 millions de dollars américains d'Exim Bank of India pour le gouvernement congolais, un prêt de la banque indienne qui vise l'achèvement des travaux du barrage hydroélectrique de Katende. Mercredi, nous avons également parlé du début de la campagne de paiement pour le deuxième trimestre 2014 de prestations sociales. L'Institut national de sécurité sociale qui assure cette opération affirme contribuer au maintien de l'équilibre de certaines entreprises publiques grâce aux prestations sociales. Bienvenue à toutes et à tous dans Panorama économique sur Radio Capi. L'actualité de la semaine est commentée par Israël Moutala, journaliste analyste de questions économiques. Il est avec nous dans ce studio. Bonjour Israël.
Bonjour.
Et bienvenue dans Panorama économique.
Panorama économique, le dossier.
Comme je le disais tout à l'heure, la RDC déclarée mercredi pays conforme à l'ITE à Mexico, au Mexique, par les conseils d'administration de cette initiative pour la transparence des industries extractives. Le pays échappe ainsi à la menace de radiation du processus ITE après que son statut a été suspendu temporairement pour une durée d'une année en 2013. Pour rappel, le conseil d'administration de l'ITE reprochait au rapport 2010 de la RDC un défaut d'exhaustivité et jugé insuffisante la qualité des données. C'est donc le rapport 2011 respectant les mesures correctives qui a fait que la RDC ait cette bonne note qui confirme sa conformité. D'après Maître Théo Mpiana, consultant en mine sur la transparence des industries extractives, le gouvernement doit maintenant veiller pour que les revenus miniers et pétroliers profitent réellement à la population. Il l'a dit à Radio Capi.
Tout ce qui est produit par les industries doit quand même profiter à améliorer, doit permettre à ce qu'on puisse améliorer les conditions de vie des populations. On est déclaré pays conforme, c'est une bonne chose, mais il y a encore un grand travail qu'il faudra faire, c'est d'intégrer toutes ces données-là pour que la transparence et la bonne gouvernance soient tenues. Au niveau de la population, on doit améliorer les conditions de vie, ça demande de moyens. Et les moyens doivent être générés par les entités extractives, puisque nous parlons des liquides. Donc, tout ce qui est généré par les entités minières, les industries pétrolières, doit être canalisé au niveau du trésor. Et quand le trésor public est renfloué, ça aura une incidence d'abord sur même le niveau du budget national. Aujourd'hui, quand vous voyez la part des contributions de recettes qui sont générées par les industries extractives, vous verrez que toute la chaîne de valeur, il y a beaucoup de pratiques illicites qui font que ce qu'on devait normalement avoir au fond du trésor public n'arrive pas parce qu'il n'y a pas de transparence. Tout ce qui est déclaré, il y a la fraude, il y a la corruption. Là, ce sont des pesanteurs qui font que la chaîne de valeur, ce qui devait normalement être versé au trésor public est amputé quelque part. Et là, le gouvernement n'aura pas de moyens pour pouvoir contribuer, disons, à l'amélioration des conditions de vie des populations, réhabiliter les routes, créer des hôpitaux, construire, disons, centres de santé, etc.
Voilà, c'était la maître Théon Piana, il est consultant mine sur la transparence des industries extractives. Je rappelle que nous sommes dans Panorama économique. Israël Moutala est notre invité, il est journaliste, analyste des questions économiques. Il est aussi impliqué dans les mines. Israël, la RDC a fait beaucoup d'efforts. Vous vous rappelez du rapport 2010 qui n'a pas aidé le pays parce que nous avons été suspendus temporairement pour une année. Maintenant que nous avons le rapport 2011 qui répond aux normes de l'ITE, vous faites quelle lecture après cette bonne note du pays?
Non, d'abord, je me réjouis que nous soyons déclarés pays conformes. Nous avons perdu beaucoup de temps à l'être. Donc, il faut d'abord saluer l'engagement politique parce qu'on ne pouvait pas atteindre le point de la conformité sans un engagement politique fort. Et donc, le Premier ministre et son gouvernement ont mis beaucoup de détermination pour que nous atteignions le point de la conformité. Et que l'équipe qui est autour du coordonnateur de l'ITIE a aussi beaucoup travaillé d'arrache-pied pour que nous ayons la conformité. Ça veut dire ceci, que nous avons progressé dans le sens de la transparence de ressources naturelles. C'est une très bonne chose. Nous courons après cette validation depuis plusieurs années sans l'atteindre. Il y a une leçon à retenir ici. C'est que quand les gens sont sérieux, quand les gens veulent obtenir un résultat, on l'obtient. Mais malheureusement, on met beaucoup de temps à l'obtenir. Ça veut dire que quand il y a une volonté politique ferme, il n'y a pas d'impossibilité à faire en sorte que les revenus miniers notamment puissent être plus transparents qu'ils ne l'étaient hier. Donc aujourd'hui, nous avons une reconnaissance internationale sur une bonne gestion de nos ressources minières surtout, parce que c'est là que ça posait problème. L'autre fois, nous avons été récalés parce qu'il y avait des contrats qui n'étaient pas conformes. Il y avait la question de l'exhaustivité des données. Ça veut dire que les données n'étaient pas complètes, les données n'étaient pas fiables. Cette fois-ci, toutes les données ont été certifiées. Les entreprises minières ont déclaré toutes les taxes qu'elles ont payées à l'État. L'État a déclaré toutes les taxes qu'elle a reçues des entreprises minières et les écarts étaient négligeables. Donc, on a fait un grand bond en avant. Donc, la question d'abord de savoir que paye l'industrie minière a été en partie résolue, en tout cas dans ces grands agrégats. Mais la question de la répartition des ressources, c'est une autre question. Au moins ici, il n'y a pas écart entre la parole des miniers et celle du gouvernement. Avant, il y avait des écarts colossaux entre ce que déclarait payer le payer les miniers et ce que déclarait recevoir le gouvernement. Aujourd'hui, les deux sont d'accord. Les miniers carte sur table disent voilà ce que nous payons, voilà ce que nous avons reçu. Et donc, il y a une meilleure canalisation des ressources naturelles, c'est indiscutable. Et nous avons progressé. Il faudra maintenir le cap et amplifier le mouvement dans tous les secteurs de la vie nationale.
Voilà, le pays a progressé, ça vous le dites. La bonne gestion des ressources naturelles implique également cette transparence dont vous nous parlez tout à l'heure. Mais vous rappelez que dans notre code minier, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas pour les communautés, également pour les opérateurs, parce que il y a la population qui veut voir les revenus miniers profiter. Vous avez suivi l'analyse de ces consultants qui dit que le gouvernement doit maintenant s'impliquer, faire à ce que les revenus miniers et pétroliers profitent réellement à la population. C'est ça la question.
Je suis d'accord. D'abord, il fallait faire en sorte que tous les revenus miniers atterrissent dans le compte général du Trésor. Donc là, nous sommes plus ou moins d'accord qu'on a franchi un pas important, parce que la communauté internationale dit aujourd'hui que nous sommes maintenant un pays conforme à l'ITIE, ça veut dire aux règles de transparence, notamment dans l'industrie minière et pétrolière. Mais la deuxième question est de la répartition de ces revenus. Là, c'est d'abord une question de pauvreté. Il n'y a pas assez de revenus pour qu'il y ait une incidence directe sur la pauvreté. Les revenus miniers dont on parle, l'activité minière elle-même génère déjà des revenus. Mais pour recevoir les revenus miniers notamment, les gens ne peuvent pas s'attendre chaque Congolais à recevoir un chèque. Non. Ça veut dire que ce sont les revenus qui vont donner plus de moyens à l'État pour faire des routes, pour faire des hôpitaux, pour faire des ponts, pour faire des écoles. Parce que cet argent est canalisé dans le trésor public. Et donc, il y a maintenant une nouvelle norme de l'ITIE qui veut que l'argent collecté dans le secteur minier soit qu'on puisse non seulement le déclarer, mais aussi essayer maintenant d'établir le lien d'utilisation. Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc là, maintenant, c'est une nouvelle norme de l'ITIE qui sera appliquée dans notre pays. D'ailleurs, qui a été l'œuvre d'un Congolais d'ici, c'est maître Jean-Claude Katende qui a permis cette évolution de l'ITIE. Ça veut dire que le conseil d'administration de l'ITIE international a évolué, a adopté une nouvelle norme exigeante. Ça veut dire que non seulement l'État déclare avoir reçu tel montant, mais il va aussi s'évertuer à montrer l'affectation de ces sommes-là. Mais la question de la distribution des revenus, encore une fois, c'est une question encore délicate, parce que dans notre pays, il y a encore trop de pauvreté. Donc, il faudra mettre d'abord l'accent sur une création de richesses, mais faire en sorte que cette richesse, une fois créée, que tous les taxes et impôts dus à l'État soient canalisés au trésor public. Et c'est ça le sens de l'ITIE, qui doit être une œuvre pérenne dans notre pays. Ça va être une mentalité, non seulement dans le secteur minier, mais à tous les échelons de pouvoir public. L'ITIE RDC a apporté du lot au moulin du gouvernement. Le gouvernement va dire au FMI, voilà, j'ai été déclaré conforme par rapport à tel point. Les contrats chinois ont été élucidés, tous les contrats qu'avait signé la GECAMINE ont été discutés, et ce sont des rapports écrits de l'ITIE. Pour que la culture de la bonne gouvernance s'implante, s'enracine dans notre pays, il faudrait que la société civile, les médias, les communautés locales puissent se servir, la justice notamment, puissent se servir des rapports qu'élabore l'ITIE, que nos parlementaires, les députés, les sénateurs, les députés professionnels, que tout le monde prenne les rapports annuels de l'ITIE-RDC et puis justement les examiner et voir où ça ne marche, où ça ne marche pas. Donc ces rapports là-bas sont des instruments que la société civile, dans son ensemble, la société politique, peuvent se servir pour justement dénoncer des mauvaises pratiques ou contester. Et donc, nous sommes tous co-responsables de la bonne marche de la transformation dans notre pays en s'appliquant, en nous appliquant nous-mêmes une rigueur, en diffusant les rapports de l'ITIE, en les utilisant. Et donc, la justice a une part à jouer, la société civile également. Mais j'aimerais revenir sur un point important.
Oui, oui, oui.
Sur la question de la distribution de richesses.
Richesse,
oui. Les gens ne peuvent pas s'asseoir chez eux et attendre qu'elle. Il faut participer à la création des richesses pour espérer, justement, récolter les dividendes. Donc, vous voyez, les plus grandes entreprises minières, ce n'est pas l'argent des Congolais. C'est l'argent des grands fonds de pension qui ont investi, qui ont attendu. Et donc, ces grands fonds de pension doivent être amortis. Ça veut dire que nous avons une comptabilité qui veut que les 5 premières années soient dédiées justement aux amortissements. Ce qui fait que les grands groupes miniers jusque-là ne payent pas encore l'impôt sur le bénéfice. Ça sera le cas, je crois, cette situation va s'estomper, je crois, l'année prochaine, où vous aurez maintenant, après amortissement accéléré, des impôts conséquents, lesquels impôts vont donner encore plus de marge de manœuvre au gouvernement. Donc, quand l'argent entrera dans la caisse de l'État, il faudrait maintenant que les députés et le gouvernement puissent élaborer des plans sociaux comme on en voit maintenant un peu, comme les 1000 écoles. Donc, il faut soutenir. Sur la question des communautés locales, mais le code minier avait prévu justement une disposition très importante qui dit ceci, que sur la redevance minière, par exemple, qui est la principale taxe dans le secteur minier, que 60% reviennent à Kinshasa et que 40% reviennent à la province. Et il y a une clé de répartition, 25% pour le chef-lieu de la province et 15% pour la localité dans laquelle est extraite les minerais. Mais cette disposition n'a jamais été respectée.
Oui.
Donc si on respectait cette disposition du code minier, on aurait déjà moins de problèmes à la base, parce que les communautés locales verraient que les ressources, l'argent de leurs ressources, les profitent à la base avec la redevance minière. Si on respecte cette clé là-bas, on résolvera beaucoup de problèmes, on va apaiser les tensions entre les exploitants miniers et les communautés locales.
Deuxième dossier de la semaine, le gouvernement congolais a reçu un prêt de 82 millions de dollars américains d'Exim Bank of India. C'est pour l'achèvement des travaux de construction du barrage hydroélectrique de Katene. L'accord entre la partie congolaise et celle de la banque indienne a été signé en fin de semaine dernière à New Delhi. Cette information donnée par le journal Le Potentiel a été confirmée par une source de la Société nationale d'électricité, SNEL.
Ces fonds permettront ainsi de relancer le projet Katende qui a besoin d'un grand financement pour être bouclé. Dans un document signé par l'ambassadeur de la RDC en Inde qui a assisté à la signature de l'accord, Exim Bank attend du gouvernement congolais l'acceptation de la ligne de ses crédits à travers un avis juridique pour éviter le retard dans les travaux. Ils sont exécutés par trois sociétés contractantes dont AIL, Bell et Fabcos. Et selon les échéances arrêtées d'un commun accord, la remise de l'ouvrage à la RDC doit intervenir avant fin 2016. Comme vous le savez, la centrale hydroélectrique de Katende devrait être construite sur la rive droite de la Lulua, à près de 10 km de la mission catholique Bunkonde, environ 70 km de Kananga. D'une capacité de 64 MW, elle est destinée à desservir les deux provinces du Kasaï en énergie électrique. Pour rappel, en 2011, le président de la RDC, Joseph Kabila, avait procédé au lancement des travaux de la construction du barrage de Katende suite à l'accord de financement qui avait été signé à Kananga entre la RDC et le gouvernement indien pour un coût global des travaux de 280 millions de dollars américains, dont 168 millions à décaisser par l'Inde et 112 millions par la RDC.
Israël Moutala, Exim Bank, c'est une banque indienne qui vient de donner un prêt au gouvernement congolais, 82 millions, alors qu'en 2011, il y a eu un engagement, un accord qui avait été signé, 282 millions, donc la partie congolaise devait une partie, et l'Inde, donc 180 millions du gouvernement indien. Il faudrait toujours continuer à demander l'aide extérieure pour finir les travaux.
Oui, c'est dommage, ça veut dire que dans ce projet... je crois que le montage financier avait été mal ficelé.
Oui.
C'est ce qui fait que le démarrage de travaux est sans cesse soit reporté ou bien les travaux interrompus. Mais on peut s'assurer au moins d'une chose, on ne peut pas atteindre l'émergence, on ne peut pas se développer sans infrastructure énergétique. Il faut d'abord de l'énergie, c'est l'énergie qui fera en sorte que d'autres industries vont s'implanter dans la province du Kasaï. Mais sans énergie, on ne peut pas se développer. Ça doit être la priorité de priorité du gouvernement. Donc, dans ce dossier, si ce dossier aboutit, comme maintenant ça semble être le cas, il faut s'en réjouir que cette fois-ci que le financement soit ferme et que le montage financier est sérieux, il faut se réjouir que les travaux vont aboutir justement à cette capacité de 64 mégawatts. Oui. C'est encore insuffisant pour deux provinces. Parce que si on crée de la richesse partout en RDC, on va réduire le risque de rébellion, on va réduire l'exode rural, parce que vous voyez par exemple que l'absence de l'énergie pour parler du Kasaï, l'effondrement de la Miba et tout ça fait qu'il y a un exode rural vers le Katanga et Kinshasa. Il faudrait qu'on arrive à fixer les populations dans leurs provinces, mais il faudra que ces provinces deviennent viables. Et pour qu'elles deviennent viables, il faut de l'énergie et des infrastructures routières. Et donc là, le projet KTD est un grand projet. Il faudrait qu'il aboutisse, qu'on accélère, et j'espère en tout cas qu'il va aboutir.
Pour que le travail avance, est-ce qu'il faudrait attendre un appui extérieur? Vous voyez un peu, c'est ça le problème.
Non, on a un problème de choix budgétaire ici. On a un problème de choix budgétaire. Nous avons très peu de ressources, mais il faudrait que leur allocation soit la plus optimale possible. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on sache qu'un franc congolais, que quand on l'investit, doit avoir les maximums de rendement possible. Et là, sur le plan de choix budgétaire du gouvernement, il y a des progrès à faire, il y a des choix contestables. Il y a des choix vraiment contestables. Il faut qu'on arrive à créer de la richesse. Je vais vous donner un choix contestable. L'hôpital du cinquantenaire, il est bling-bling, c'est 100 millions de dollars.
Oui.
Pour moi, c'est un choix contestable. Ou bien on pouvait faire avec 100 millions de dollars, on pouvait faire, on rétape les cliniques universitaires, on rétape Mamayemo, on rétape Clinique Kinoise et d'autres centres de santé en RDC, les hôpitaux de référence à chaque province. Donc, il y a une question de choix budgétaire. Donc, j'aurai les 100 millions, moi je les mettrai pas dans l'hôpital de Saint-Canaire, je les utiliserai autrement.
Voilà, nous allons poursuivre avec le dernier dossier de la semaine. C'est la campagne de paiement pour les prestations sociales en RDC qui s'étend sur toute l'étendue de la RDC. Elle a commencé depuis mercredi dernier. Cette opération est assurée par l'Institut National de Sécurité Sociale, l'INSS, selon son directeur général intérimaire. Avec la stabilisation du cadre macroéconomique de la RDC, l'INSS est capable de payer régulièrement le prestataire social. Agnès Mwande-Kawej-Katand souligne même que dans certaines entreprises congolaises, l'INSS a ses parts qui permettent de maintenir l'équilibre. Elle est au micro d'Innocent Linga.
Tous les fonds que nous avons, nous devons les investir. On ne peut pas garder le fonds de l'INSS comme ça. Non, nous devons les investir. C'est pour cela que vous verrez que l'INSS a pris à l'époque de participation dans les différentes entreprises. Je peux vous dire, par exemple, une entreprise comme LAC, malheureusement en faillite, où l'INSS
avait des parts.
Oui, avait des parts. Vous avez le Grand Hôtel de Kinshasa. Nous avons des parts dans le Grand Hôtel de Kinshasa. Nous avons aussi des parts aujourd'hui à Saint-Gamine, qui a été créé aussi, oui, comme hier. Aussi qui a été créé aussi avec le fonds.
Tout ça, c'est pour tenir
donc une coups. Partie de fonds de l'INSS. Donc nous investissons pour que nous puissions aussi rendre ces fonds rentables et nous permettre de prévenir vraiment l'équilibre de la caisse.
Mais puisque l'affiliation à l'INSS est obligatoire, comment faites-vous pour les employés réfractaires qui ne payent pas?
Donc ceux qui ne payent pas, la loi est claire. Donc tout travailleur qui ne s'acquitte pas de ses obligations, employeur plutôt, qui ne s'acquitte pas de ses obligations est passible d'une peine.
Il y a des pénalités.
faire, il y a des pénalités. Tout d'abord, il y a la majoration des retards qu'on doit vous appliquer. Et cette majoration des retards qu'on doit vous appliquer, si vous ne payez pas, à ce moment-là, il y a les titres. C'est faisable. C'est faisable. Il y a des titres authentiques qui vont même jusqu'à bloquer les comptes de l'employeur.
Israël Moutala, c'est l'INSS qui lance une campagne de paiement de prestations sociales. Le directeur général intérimaire a dit c'est que l'INSS participe également, contribue également dans certaines entreprises et la sépare, et cela est lié à la stabilisation du cadre macroéconomique.
Oui, la stabilité du cadre macroéconomique est une très très bonne chose qui permet justement, qui donne de la perspective aux entreprises. Mais je pense que au lieu de brandir le bâton, je pense que l'INSS gagnerait en faisant de la pédagogie. Écoutez,
il a ses poches pleines selon le directeur général actuellement.
Oui, mais moi je sais que beaucoup de gens ont été déçus, beaucoup de retraités ont été déçus. Mmh. Les gens n'ont pas confiance. Mmh. Écoutez, vous posez la question, qui est ce Congolais qui dit que non, par exemple, moi je veux commencer à cotiser à l'INSS pour que dans 30 ans, quand j'aurai ma retraite, est-ce que cette personne-là est sûre que l'argent qu'elle met à l'INSS aujourd'hui, en 30 ans, elle sera payée à des bons taux et tout ça? Non, c'est une question d'abord de confiance, parce que des gens qui avaient cotisé jadis ont eu de problèmes avec tout ce que le pays a traversé comme problème, comme crise. Voilà. Et moi, je m'étonne. Comment est-ce que l'INSS pouvait prendre des participations dans l'AC? C'est une décision très contestable. Mm-hmm. C'est une décision très, très contestable.
Et là, il parle également du Grand Hôtel.
Oui, de Grand Hôtel aussi. C'est une décision très contestable. Je serai à l'INSS, je ne mettrai pas l'argent au Grand Hôtel dans ces conditions. C'est-à-dire que c'est compliqué. Donc, il faudrait vraiment que l'équipe qui est chargée d'investir l'argent
des contribuables,
employés. Voilà, qu'on explique un peu la logique, comment est-ce qu'on mettrait l'argent là-bas. Je vois pas trop. Donc, moi, je pense que les fonds de pension sont très importants.
Oui.
D'ailleurs, moi, je crois que les principaux fonds de pension aux États-Unis et en Europe sont constitués justement de l'argent des gens qui ont cotisé pendant qui cotisent pendant leur vie. Oui. Alors, ils sont en train d'investir pour avoir les moyens de rémunérer.
Mais où est-ce que l'INSS mettrait cet argent, en fait, pouvait investir? Parce que c'est pour maintenir l'équilibre, comme l'a dit.
Ouais, tout à fait. Mais bon, il y a de bons projets, pas seulement au pays, mais même à l'extérieur. Elle peut trouver elle est dans l'immobilier, c'est une très bonne chose.
Oui, ça c'est vrai.
Il faut mais qu'elle récupère tous ses immeubles, qu'elle les rentabilise, parce que quand vous voyez les loyers que les gens payent dans les immeubles de l'INSS ici en ville, ils ne correspondent pas à la réalité de prix sur le marché. Et donc, mais il n'est pas interdit aussi qu'elle s'internationalise. Mais pour arriver là-bas, il faut d'abord qu'elle-même ait une gestion rigoureuse, qu'elle se modernise pour un meilleur traitement des dossiers. Mm-hmm. D'abord, ici, il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne payent pas leurs cotisations comme il se doit, parce qu'ils ont perdu confiance. Mais il faut qu'elle donne les garanties elle-même.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Quelques nouvelles en bref. Direction ville de Kisangani, où une délégation de la synergie congolaise pour la coopération décentralisée et le développement local basé en France est en train de mener une étude des faisabilités pour l'implantation d'une chambre de métier et de l'artisanat en province orientale. L'objectif poursuivi de cette chambre est notamment de combattre le chômage et en valorisant certains métiers non validés mais qui contribuent à la survie de la population. Au Katanga, le président national de commerce congolais de l'étranger appelle tous les commerçants congolais à éviter la fraude et à déclarer normalement leurs marchandises à la douane. C'est confié mercredi à Radio Capi. Edouard Soumaïli a fait savoir que cette pratique constitue un véritable manque à gagner pour l'État congolais. Pour lui, certains opérateurs économiques du Katanga procèdent à la fraude en déchargeant leurs marchandises en brousse avec l'aide de certains services de l'État. Autre actualité, les refoulés congolais des Brazzaville s'éprennent de taxes qui leur heures serait exigé par la DGDA au poste frontalier du Louzi. Nous sommes là à environ 223 kilomètres à l'est de Matadi, dans le Bas-Congo. Ces expulsés de Brazzaville sont arrivés à Boma depuis plus d'une semaine. Pour un paiement de taxes à des douanes, les véhicules qui transportent les effets de ces refoulés et bloqués depuis 3 jours au poste frontalier de la RDC à Louzi. En bref, également la disparition d'une somme importante dans une agence de transfert en Boujimaï. Nous sommes au Kassai oriental. Alors que certaines sources parlent de plus de 10 000 dollars, le responsable de l'agence dénommé Jésus seul affirme qu'il s'agit de 5 000 dollars dont une partie appartient au client et une autre à l'entreprise. En réaction, certains clients mécontents ont pillé le week-end dernier quelques biens de l'agence. Israël Moutala, c'est notre invité dans Panorama économique. Il commente avec nous l'actualité économique de la semaine, donc sur Radio Okapi. Alors, pour terminer cette émission, parlez-nous un peu de Africa Progress Panel, APP, pour lequel vous êtes point focal en RDC. D'ailleurs, il y a eu une conférence internationale organisée le mois dernier à Memling.
Africa Progress Panel.
Oui.
Bon, je suis pas... C'est un think tank de 10 personnalités éminentes,
oui,
que dirige Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies. Donc, il réfléchit au développement de l'Afrique, mmh, avec d'anciens présidents, d'anciens directeurs du FMI ou de la Banque mondiale. Alors, ils sont 10 personnalités qui produisent chaque fois un rapport sur un secteur d'activité donné. L'année passée, c'était sur le secteur minier. Cette année, c'était sur le secteur de l'agriculture. Donc, je suis pas à proprement parler leur point focal. Je collabore ou je travaille, je suis le point focal d'une structure des diffusions de leur rapport qui s'appelle Africa Gathering, que dirige Mariam Djem. Mmh. Et donc, ils ont publié un rapport sur l'agriculture, pour eux, le développement de l'Afrique, la sécurité alimentaire passe par la promotion de l'agriculture et de la pêche. Ils ont fait un constat simple que l'Afrique se développe, elle croît, mais elle ne crée pas suffisamment de richesse et d'emplois pour enrayer la pauvreté. Les mines, les pétroles, c'est bien. L'agriculture et la pêche, c'est mieux. Et donc, ils ont demandé au gouvernement africain de développer la pêche, de développer l'agriculture et les ressources et la forêt.
L'agriculture, vous le savez, nous avons deux dimensions. Il y a l'artisanat et l'agro-industrie. Bon, qu'est-ce qui est plus... qu'est-ce qu'il y a à promouvoir? C'est l'agro-industrie ou l'artisanat? Et c'est dans quel sens pour que ça soit productif?
Pour que ça soit productif, on ne va pas opposer les deux.
Oui.
Il faudrait qu'il y ait des structures plus grandes,
mm-hmm,
et des structures moyennes et des petites structures. Mais le problème, il faut de l'innovation. Mm-hmm. C'est d'ailleurs une des principales recommandations justement des conférenciers de l'APP de Kinshasa qui ont demandé à ce que qu'on aide les petits paysans, qu'on aide les mamans maraîchères, mm-hmm, à plus d'innovation, à les encadrer.
Et des grands producteurs aussi.
Ouais, les grands agriculteurs, mmh, ils ont assez de moyens de se prendre en charge. Ils ont la technologie, ils ont les capitaux. Et donc, dans le rapport de Kofi Annan aussi, c'était de promouvoir des structures financières qui puissent accorder des crédits, des prêts aux petits exploitants agricoles. Ce qui est important parce que beaucoup sont confrontés à des problèmes d'accès aux capitaux. Ici, c'est de mettre d'abord fin au pillage de ressources halieutiques, mmh, notamment sur la côte ouest de l'Afrique.
L'Afrique,
tout à fait. Il faudrait que les États africains s'organisent, il faudra mieux gérer la forêt, il faudrait justement un meilleur encadrement de nos paysans en leur apportant des nouvelles semences, de la technologie, de la formation. Bref, il faut un meilleur encadrement et surtout atteindre au moins 10% de notre budget, conformément au protocole de Maputo, alloué au secteur de l'agriculture.
Israël Moutala, nous allons nous quitter là ce samedi dans Panorama économique. Israël Moutala est journaliste, analyste de questions économiques. Nous allons nous retrouver le week-end prochain pour un nouveau numéro avec un autre invité, bien sûr. Mais le rendez-vous déjà lundi, vous avez Écho d'économie chaque 18h15. Merci Israël Moutala.
C'est moi qui vous remercie.
Bob Landou à la technique. Au revoir.